Convention nationale ceinturée 21 sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue en direct de Lyon, en direct de la Convention Ceinturée 21, Convention 2025, la Convention nationale. Ravi de vous retrouver, ravi de vous faire vivre cet événement pendant 2 jours et j'ai le plaisir d'ouvrir justement cette convention, d'ouvrir notre premier plateau avec le président France, Charles Marinakis. Bonjour.
Bonjour Bérénice, très heureux de vous accueillir ici à Lyon,
oui.
À l'occasion de notre 35e Convention nationale quand même.
Et oui, 35 ans, ça passe vite.
Le temps passe.
Alors là, vous avez la radio en pleine forme, comment ça va? Comment vous sentez à l'ouverture?
Alors, toujours très bien. Vous savez, c'est toujours un grand moment, les conventions nationales. D'ailleurs, quelles que soient les situations de marché, évidemment, c'est toujours plus agréable et plus sympathique quand les marchés se redressent, ce qui est le cas. Mais globalement, pour nous, c'est un rendez-vous incontournable avec nos partenaires et nos franchisés, les conseillers du réseau. Donc, ça reste un moment d'échange, de partage et surtout d'énergie incroyable, d'énergie réciproque. Et voilà, donc on est toujours très, très stressé parce qu'on a envie que ça se passe bien et en même temps très heureux et très content de vivre ces moments-là.
Oui, parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il faut combien de temps pour organiser une convention comme ça? Un an?
Oh oui, on s'y prend un peu moins d'un an parce qu'on est assez rompu en ce moment. Mais s'il y a 8 mois de préparation à l'avance, et puisque vous parlez des destinations, il faut que vous sachiez qu'on réserve les salles 3 ans à l'avance. Hein. Donc 3 ans à l'avance, on sait déjà où on va aller.
Donc là, vous êtes sur l'année 2028 déjà?
Là, on n'a pas encore réservé 2028, mais 2026 et 2027, on peut le dire, ce sera au Palais des Congrès à Paris pour les 2 années 2026-2027. Donc, vous voyez, là, on travaille maintenant sur une réservation de salles pour 2028. Donc, c'est des projets à moyen terme.
Ouais. Concrètement, c'est quoi, en fait, l'objectif premier d'une convention pareille? C'est quoi votre objectif?
Alors, en fait, on poursuit essentiellement 3 objectifs. Le premier, nous l'oublions pas, c'est mettre à l'honneur nos champions. Toutes celles et ceux qui ont vraiment performé dans l'année, dans toutes les catégories, dans toutes les activités, parce qu'ils méritent ces récompenses-là. Ils ont travaillé fort toute l'année. Et nous, on a pour habitude de mettre à l'honneur nos champions. C'est déjà le premier élément essentiel. Deux, je vous l'ai dit, c'est de se retrouver entre nous. La famille Ceinturée 21 se retrouve et on s'échange de l'énergie. On s'échange d'avoir le plaisir de se revoir, de se rencontrer. Et puis, on se transmet une énergie collective qui est surpuissante et tout le monde part regonflé à bloc. Et puis, pour Ceinturée 21 France, c'est aussi un moment privilégié où on peut passer un certain nombre de messages, expliquer notre stratégie, dire cela que nous allons faire sur l'année, les 2 ans qui viennent, pourquoi on a fait tel choix, pourquoi telles orientations, quels sont les objectifs, les grands objectifs, objectifs à court terme, moyen terme et long terme, quelle est la stratégie du réseau, dont il ne vous aura pas échappé, Bérénice, qu'on aura 40 ans en 2027.
Alors justement, on va parler un peu de cette stratégie. On va faire un point l'année dernière, c'est vrai que j'étais là aussi pour la convention 2024. En un an, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous devez résumer à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, le marché.
Alors déjà, le marché, vous savez qu'il s'est dégradé de 11% en volume, mais si vous cumulez les 2 dernières années, on parle de moins 32% quand même. C'est très significatif, quasiment un tiers de volumétrie en moins en termes de transactions. En volume de transactions, on est à 778 000 transactions en 2024. Moi, ce que je retiens vraiment de l'année qui vient de s'écouler, c'est l'incroyable résilience du réseau Ceinturée 21, si vous voulez, qui est resté campé sur ses traditions, hein, sur la force de ses traditions, c'est-à-dire l'essence même du métier d'agent immobilier, sans oublier, et c'est le titre de notre convention, vous le savez, d'aller chercher le meilleur de l'innovation. Mais je crois qu'on a des fondations qui sont extrêmement solides, qui sont ancrées dans notre histoire. Et l'histoire, ce n'est pas quelque chose de désagréable, au contraire, c'est quelque chose qui permet d'avoir des grands repères quand le vent souffle, et le vent, vous le savez, a soufflé fort pendant 18 mois. Eh bien, nous, on a une capacité de résilience incroyable qui s'est matérialisée dans le dernier trimestre 2024 et qui continue aujourd'hui à se traduire dans nos chiffres qui sont excellents en début d'année.
Alors justement, j'allais vous en parler, vos chiffres, c'est vrai que vous êtes acyclique, j'ai envie de dire. Alors, c'est vrai que vous surperformez le marché. Comment vous expliquez? Alors, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a la force du groupe. Hein, vous êtes un groupe français, mais aussi international. Ça joue, ça aide. Comment vous expliquez justement la formation des franchisés, peut-être? Comment vous expliquez en plus ces chiffres, en fait?
D'abord, c'est un ensemble de choses, si vous laissez l'agrégat de plusieurs facteurs. Primo, c'est la qualité de nos partenaires et de nos franchisés. Hein, vous savez, c'est toujours... Ouais. C'est vraiment ça l'essentiel. Et nous, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont remarquables d'implication et de résilience. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, incontestablement, c'est le niveau de formation que nous pouvons leur dispenser, qui est encore une fois ancré dans l'histoire, qui a fait ses preuves, qui a traversé déjà des zones de turbulence sans encombre ou quasiment sans encombre et qui fait tous les jours la preuve de sa performance. Donc on est aussi très, très fiers de ça. Et puis, je crois aussi que la troisième chose, et vous allez le découvrir, vous nous connaissez bien maintenant pour être souvent avec nous dans nos conventions, il y a une confiance réciproque, ouais. Si vous voulez. Il y a une confiance entre le franchiseur et ses franchisés et qui est juste incroyable. Et donc, on a cette énergie-là, elle ne s'oppose pas, elle s'additionne.
Bien sûr.
Et donc, on a une énergie collective. Je crois que nos franchisés, nos partenaires nous font extrêmement confiance dans nos choix, dans nos orientations. On le leur rend bien, on est très proche d'eux, on les accompagne beaucoup. Et tout ça crée une osmose, si vous voulez, qui nous rend extrêmement résilients et performants. Voilà, et donc, c'est vraiment l'agrégat de plusieurs facteurs. Voilà.
Et c'est vrai ce que vous dites. Je me souviens, l'année dernière, j'avais interviewé un couple vous avait rejoint en pleine crise, justement, avec cette confiance et qui m'avait confié à ce micro, qui m'avait dit que, justement, ils avaient vu la différence, hein, la force du réseau. Et,
Oui, c'est incroyable. Ouais. Ceux qui ne sont pas dans notre réseau, c'est dommage pour eux, mais ils ne peuvent pas mesurer à quel point cette énergie collective, elle est puissante et à quel point c'est une vraie famille. Voilà, donc il y a, sans prétention, vous savez, moi-même j'ai été agent immobilier indépendant pendant 10 ans, mmh. Et puis j'ai eu deux vies, j'ai eu une vie avant le réseau et une vie après, quand vous êtes chez Century 21. C'est seulement à ce moment-là, si vous voulez, que vous mesurez à la fois la qualité des outils, la qualité de l'accompagnement, la puissance de la marque, et puis voilà, cette grande famille, cette énergie collective. Mais c'est vrai que nous, quand on l'explique, on a l'impression qu'on vend un peu notre salade, si vous voulez. Mais non, c'est pas une salade, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, et c'est parfois assez difficile de l'expliquer, mais il faut le vivre de l'intérieur. Et je suis très content que vous puissiez, au gré de ces rendez-vous que nous avons sur notre convention nationale, mais voilà, rencontrer des gens qui vous font partager cette expérience.
Et c'est très intéressant parce que chacun a des expériences différentes, mais chacun s'accorde sur la même chose, en fait, sur la puissance du réseau, sur la confiance qu'ils ont, vous l'avez dit, en vous. J'aimerais qu'on parle du marché 2025. Alors, on l'a vu, vos chiffres le montrent aussi, il y a eu un frémissement, il y a eu une amélioration concernant les transactions, toujours, hein, en fin d'année 2024. On avait échangé, hein, lors de votre conférence de presse au mois de janvier. Ça commence à aller mieux. Là, la BCE, il y a 10 jours, a à nouveau baissé ses taux directeurs. Alors, hors imprévu international, j'ai envie de dire, ça devrait aller dans le bon sens. Les experts, les courtiers tapent sur des taux autour de 2,70 d'ici cet été. Vous, c'est ce que vous m'aviez dit. Hein, pour vous, ce qui joue sur votre business, c'est les taux, c'est le financement, c'est permettre aux gens d'acheter. Qu'est-ce que vous envisagez pour cette année 2025?
Ouais, alors, l'élément essentiel, le variateur essentiel de nos marchés, ça reste la capacité des Français à emprunter pour acheter de l'immobilier. C'est aussi simple que ça. Donc ça joue quand même sur deux facteurs dont vous avez, il ne vous a pas échappé, qui se sont alignés en fin d'année 2024. C'est à la fois la baisse des taux, qui était une absolue nécessité pour redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français, mais aussi, et j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est vraiment le couplage des deux qui fait que le marché a retrouvé de la tonicité, c'est aussi la baisse des prix et le réajustement des prix qui était malgré tout nécessaire. J'ai l'intime conviction que si nous n'avions eu qu'une baisse des taux, c'était nécessaire et pas suffisant. Là, on a eu à la fois la rencontre de la baisse des taux et de la baisse des prix. Non, pas partout, parce qu'il y a des régions qui sont plus privilégiées que d'autres, mais globalement, ça a quand même baissé et ça s'est ajusté à minima. Ça a baissé dans certaines régions. Pour moi, baisser, c'est deux chiffres et ajuster, c'est un chiffre. Voilà.
D'accord, voilà. Donc, clair.
Voilà, ça, c'est ça. La nuance est là. Mais moi, je suis assez optimiste. Alors, moins optimiste que mes amis courtiers en crédit, parce que je ne suis pas certain qu'on retombera à 2,70, 2,80.
D'accord.
Moi, je crois que si la France vit entre 3 et 3,5, elle vit bien. Voilà.
C'est bien.
C'est un taux normal, ouais. C'est un taux raisonnable. N'oublions pas, si vous voulez, que vous avez connu une période où on avait encore des taux à 1,2%, mais où les banques, finalement, avaient renoncé à prêter parce qu'elles perdaient de l'argent à chaque fois qu'elles mettaient un prêt en place. Donc, n'oublions pas cette période-là.
Elles renonçaient vraiment à prêter ?
Oui, elles ont fermé les robinets à un moment donné.
Oui, à un moment, mais quand ça...
Elles ont fermé les robinets parce que, si vous voulez, elles ont attendu que les taux remontent pour arrêter de prêter à 1,2 et reprêter à 3 ou à 4, si vous voulez. À un moment donné, il faut bien comprendre qu'une banque, bah, ce n'est pas une œuvre de charité, qu'elle a du produit net bancaire à faire et qu'elle doit gagner sa vie à chaque fois qu'elle met un crédit en place.
Voilà. Après, mettre à crédit, c'est aussi gagner un client. Et justement, les banques ne gagnent pas forcément d'argent sur un crédit immobilier, mais elles vont gagner de l'argent derrière sur tous les autres services
évidemment,
qu'elles vont proposer aux clients.
Évidemment, mais elles ont finalement, c'est tout à fait vrai. La nuance, si vous voulez, c'est que pendant une période, elles ont accepté de perdre de l'argent sur le crédit pour aller en conquête. Et elles n'acceptent plus ça.
Les taux inférieurs à 1%.
Exactement. Ouais. Voilà, avec les taux inférieurs à 1%. Ils acceptaient de perdre un peu d'argent sur la mise en place du prêt et en contrepartie, vous avez raison, ils gagnaient de l'argent sur les services qu'ils facturaient en complément. La difficulté, si vous voulez, c'est que la fidélité des clients a changé et que ce raisonnement-là, qui est un raisonnement sur du moyen ou long terme, lorsque votre client change de banque pour aller renégocier son taux, ben vous avez de double effet qui se coule. Vous avez perdu à la fois sur le taux et vous n'avez pas eu le temps de lui facturer suffisamment de services pour compenser la perte des taux. Voilà. Il faut bien comprendre ce mécanisme bancaire. Tout ça pour vous dire en deux mots, moi je préfère une France à 3% avec des robinets grands ouverts, d'accord, plutôt qu'une France à 2,5% avec des robinets à moitié fermés.
Voilà. Alors deux questions qui me viennent, avec ces taux qui diminuent un petit peu, alors vous l'avez dit peut-être pas jusqu'au 2,70, on verra, mais ils vont un petit peu diminuer quand même les mois à venir. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que les prix remontent? On sait que c'est assez mécanique.
Ouais, ça c'est le risque.
Ça c'est le risque. Ouais. Est-ce que ça pourrait à nouveau bloquer plus ou moins le marché?
Oui, malheureusement oui. Vous l'avez. Ce principe des vases communicants, il est bien connu. On espère que les Français qui sont vraiment vendeurs de leurs biens garderont toute leur lucidité par rapport à ça. Et parce qu'à un moment donné, si vous voulez vendre, il faut quand même ajuster vos prix, en tout cas les mettre au prix de marché. Mais c'est effectivement un danger qui nous guette. Et moi, je vais essayer de sensibiliser nos équipes sur l'absolue nécessité de profiter de la baisse des taux tout en jugulant la hausse des prix. Oui. Sinon, on reviendrait à une situation, vous l'avez dit, une situation de blocage. Et ce n'est pas ce qu'on a envie de revivre. Mais je crois que les Français ont bien compris quand même qu'à un moment donné, quand c'est trop cher, Bérénice, vous savez, c'est trop cher.
C'est sûr. Quand c'est cher, c'est cher. Voilà. Et autre question, Charles, c'est vrai que là, vous m'avez donné votre idée sur les taux. Pour vous, un taux, on va dire, alors j'ai pas envie de dire normal, parce que la normalité des taux n'existe pas, mais un taux, on va dire, sain, ce serait autour de 3,5. Les transactions à l'année, hein, pareil, qu'est-ce qui, selon vous, serait sain? Parce que vous avez évoqué les deux belles années, mais 1,2 million transactions, c'était artificiel.
Oui,
voilà.
Totalement.
Là, pour un retour à la normale concernant les transactions, donc le nombre
850 000 ventes, c'est ce que doit peser le marché français des transactions dans l'ancien, si vous voulez. Voilà, c'est 850 000 ventes. Vous savez, il y a 36 millions de logements en France, donc 82% de résidences principales. Si vous faites le calcul avec un taux de rotation à 3%, vous arrivez à ce chiffre-là. Voilà, c'est autour de 850 000. Alors une année, ce sera 830, l'année d'après 870. Mais il me semble que le gabarit du marché français, si vous voulez, c'est aux alentours de 850 à 900 000 ventes. Et ce qu'on a connu dans les années, vous l'avez dit, 2022, était totalement artificiel. Mmh. C'était un marché qui était en surchauffe.
Donc là, c'est ce que vous espérez pour 2025 en tout cas?
Oui, moi, c'est ce que j'ai dit. Vous avez rappelé que j'avais fait une conférence de presse en janvier. J'ai annoncé ça. Vous vous souvenez aussi que j'avais annoncé 780 000 ventes pour cette année? Je ne me suis pas quand même pas beaucoup trompé.
Non.
On a fait 778 000. Voilà.
C'était pas mal. Vous êtes un... je vais venir vous voir. Vous faites des consultations privées pour le...
Non. Okay. Pas de consultations privées pour prédire l'avenir.
Voilà, bon.
Mais je pense qu'un gabarit... Franchement, si on avait quelque chose... Vous savez, quand on est patron de réseau comme moi, on n'aime pas les courbes qui se fracassent, d'accord ? Les marchés qui se cassent, un coup 1 100 000, 1,2 million. Comment on peut
construire... En tant que chef d'entreprise,
Et puis aussi pour nos partenaires, parce que regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les notaires ont beaucoup ont été obligés de licencier ou de se séparer, de réduire leurs effectifs. Maintenant que le marché repart...
Avec les notaires, le bâtiment aussi.
Je vais prêcher pour ma part, parce que les notaires, en fait, c'est un instrument indispensable pour nous, un passage obligé. Mais aujourd'hui, de nouveau, on a des difficultés pour arriver à signer des actes dans des délais normaux parce qu'ils ont réduit leurs effectifs.
Mais oui,
ça suit plus. C'est-à-dire, de nouveau, le volume des transactions a augmenté et donc, de nouveau, il y a un embouteillage. Vous voyez, je vous donne un exemple qui n'est pas celui des agents immobiliers, c'est que comment réguler nos forces de vente, la taille de notre réseau, le nombre d'agences, etc., quand on a des marchés qui subissent, si vous voulez, des fluctuations brutales comme celle-là. Moi, je préfère sincèrement un marché régulier. Allez, on va dire entre 850 et 900 000 ventes, avec des taux qui vont osciller raisonnablement, pour les plus optimistes, à 2,80, entre 2,80 et 3,30, 3,50, mais de manière pérenne, de manière régulière, et qu'on ait une ligne de flottaison dont on sait qu'elle va s'ajuster au gré de la démographie, au gré de l'arrivée sur le marché des nouveaux logements, mais qu'on sait parfaitement bien quantifier. Voilà, quelque chose de pérenne, de régulier, qui ramène de la sérénité, et puis qu'on puisse construire des stratégies au long cours.
J'ai encore envie de vous poser plein de questions, mais je vais que deux.
Mince, dommage.
Le contexte international, votre avis, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, ça peut jouer sur vos clients, sur les acquéreurs qui ont, je pense à ceux qui ont envie de se projeter, d'acheter un bien, qui ne sont pas forcément contraints. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment avec les déclarations d'Emmanuel Macron, les déclarations de Trump, on a vu, ça se tend un peu partout dans le monde. Est-ce que selon vous, ça peut impacter votre business ?
Pour une partie que je considère pour le coup assez marginale. Parce qu'en fait, si vous voulez, les Français font un distinguo assez précis entre ce qui est du ressort de la macroéconomie et ce qui est du ressort de la microéconomie. Nous, on a 1,5%, vous savez, c'est le mistigris des économies modernes, c'est l'inflation. Et donc, c'est au travers de l'inflation que la géopolitique peut avoir de l'influence sur nos marchés. Et là, il y a un risque. Voilà. C'est pour ça que j'ai été surpris que la BCE baisse les taux cette fois-ci, parce que je pensais que c'est un risque qu'elle ne prendrait pas. Je pense qu'elle ne le rebaissera plus avant que la situation en Ukraine ne soit normalisée, ce qui veut dire quand même malgré tout quelques mois, quoi qu'il arrive, même si on a l'impression que les choses peuvent s'arranger maintenant. C'est l'inflation qui est le dénominateur commun, si vous voulez, entre la macroéconomie et la microéconomie. Si ça se dégrade, vous vous souvenez que c'est ce qui s'est passé au premier trimestre 2022. C'est la montée brutale de l'inflation qui a embarqué avec elle l'augmentation des taux. Et donc, moi, ce que le régulateur que je suis le plus, c'est celui de l'inflation, parce que c'est lui qui connecte la géopolitique, si vous voulez, avec les marchés locaux. Voilà.
Oui. Donc, le pouvoir d'achat des Français est corrélé directement à
l'inflation. Et le pouvoir d'achat, et donc le reste à vivre, et donc la capacité d'emprunt, etc. Tout est connecté ensuite derrière. C'est ça qu'il faut surveiller. Alors, si la géopolitique a effectivement une conséquence qui n'est pas impossible, parce que c'est un facteur sensible à la géopolitique, vous l'avez vu avec la guerre en Ukraine, si la géopolitique influence l'inflation, alors là, forcément, ça va avoir une conséquence directe. Mais ça, c'est une conséquence, je dirais, arithmétique et mécanique. Est-ce qu'il y a une conséquence psychologique ? Sincèrement, je ne le pense pas, ou vraiment à la marge. Je crois que les Français, ils sont quand même assez raisonnés et raisonnables. Bon, bien sûr que le risque de guerre existe toujours, il est quand même assez modéré, si on se dit la vérité. Et puis la France est quand même la sixième puissance du monde, donc on a le sentiment encore d'être assez protégé en France. Voilà, donc je ne pense pas, hormis par l'inflation, encore une fois, qu'il y ait un mécanisme économique, que ça puisse avoir une influence psychologique significative.
Allez, dernière question, on terminera avec ça. Vos mots pour donner envie à des gens qui ne sont pas encore franchisés de le devenir. Je vous laisse vous exprimer.
Moi, j'ai l'habitude, je vois, il y a Sofiane Nakala qui est notre directeur du développement. Et je dis toujours aux gens, parce que souvent quand on contacte des agents immobiliers, ils sont assez performants sur leur marché et ils ont le sentiment, si vous voulez, qu'ils n'ont pas forcément besoin de rejoindre une franchise, fût-elle Century 21, qui est quand même le premier opérateur français en immobilier. Et moi, je leur dis, je comprends, vous êtes des agents immobiliers indépendants, vous êtes performants, mais ce n'est pas parce que vous êtes bon qu'il faut vous empêcher d'être meilleur.
Voilà. Et ben voilà, on terminera avec ça. Merci infiniment, Bérénice. Charles Marinelli.
Et puis, bonne convention, bienvenue dans la famille Century 21.
Merci, bonne convention à vous aussi.
Convention nationale Century 21 sur Radio Immo.